With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Coucou les légendes, bienvenue pour ce 50e épisode déjà. Comme chaque mardi, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui 11 Jabeur, qui écrit chaque jour un peu plus l'histoire tennistique du monde arabe. Au moment où l'on sort cet épisode, 11 égale son meilleur résultat en Grand Chelem, puisqu'elle est en quart de finale à Wimbledon édition 2021, et on lui souhaite évidemment d'aller au bout. La connexion n'était pas folle ce jour-là, désolé pour les quelques passages qui coupent, mais globalement tout reste compréhensible, rassurez-vous. Sachez qu'avec 11, c'était la toute première interview historique enregistrée pour ce projet de podcast. Et je peux vous dire qu'en commençant avec une joueuse de ce calibre, j'étais presque aussi tendu qu'avec Nelson Monfort, c'est dire. On parle ensemble de son toucher de balle, puis de son immense influence dans le monde arabe grâce à son explosion, de son approche mentale aux côtés de sa préparatrice, de son mari et coach physique, des difficultés financières auxquelles elle a fait face au début de sa carrière, de ses ambitions et de ce qui l'anime en général dans sa vie de femme. Quelque chose me dit que ce moment détendu avec 11 va valoir son pesant d'or dans les années qui viennent. Laissons-la nous surprendre avec son jeu atypique, tout en variation. Place au 50e épisode avec l'idole d'un peuple, 11 Jabeur. Bonne découverte et bonne écoute à tous. 11, je vais faire une petite intro de toi. Tu me dis si j'ai tout bon. Tu es née le 24 août 1994. Tu es tunisienne. Le 28 août.
Ouais.
Ça commence fort. Tu as commencé le tennis à 3 ans. Tu remportes Roland-Garros Junior en 2011. En battant Caroline Garcia en demi-finale et Monica Puig en finale. En 2010, tu avais fait finale contre Svitolina. Tu deviens pro en 2012. Tu es la première joueuse africaine à gagner un tournoi du Grand Chelem en simple depuis 55 ans, depuis Mustapha Belkodja, lui aussi tunisien, et qui avait gagné en 1956 Roland Junior. Tu as deux frères et une sœur. Tu es mariée à ton coach physique depuis 2017. L'année
2015.
De ton entrée. Ah, 2015. Eh ben voilà, deuxième correction.
Je vais corriger celle-là, sinon c'est pas bien.
Ah ouais, obligatoire. C'est d'ailleurs l'année de ton entrée dans le top 100. Alors j'ai vu 2017, l'année d'entrée dans le top 100. Alors je pense que c'est 2 ans après le mariage. En 2018, tu fais ta première finale WTA à Moscou. Le 28 novembre 2019, tu deviens la meilleure femme sportive arabe de l'année. En ce début d'année 2020, tu fais ton meilleur résultat en Grand Chelem pour aller jusqu'en quart de finale à l'Australian Open en perdant contre la future gagnante Sofia Kenin. Tu fais par la même occasion ton entrée dans le top 50 avec une meilleure performance d'une joueuse arabe jamais effectuée dans le tennis pro. Tu es passionnée du foot, plus précisément du Real Madrid.
Avant, j'aimais plus Real. Là, ouais. je préfère Juventus parce que je suis Cristiano Ronaldo tout le temps. Donc, il a changé, je change un peu.
Est-ce que tu peux nous dire, à 3 ans, comment ce qui t'a amené au tennis, qu'est-ce qui t'a fait prendre ta première raquette?
Ma mère, elle adore le tennis, donc, puisque j'étais la plus petite dans la famille. Donc, je jouais avec elle au club, j'adorais la petite raquette, le petit ballon et tout, donc jouer, et ça commençait comme ça, tu vois, juste à plaisir, j'adore ce sport-là. Après, j'ai commencé à s'entraîner à l'âge de 5 ans avec les petits. Moi, après les petits, j'ai commencé à faire les tournois nationaux, puis les tournois internationaux, j'ai commencé à... Voilà, ça a commencé les tournois. J'ai gagné un tournoi je sais pas, c'était moins de 12 ans ou moins de 13 ans. C'était à Dijon. C'était un tournoi en France. Et voilà, ça a commencé petit à petit, quoi.
Et est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti vraiment au tout départ quand tu as commencé à apprendre le tennis, à faire tes premiers coups, tes premières sensations?
J'avais de la chance parce que dans mon école, il y avait un terrain de tennis. Donc j'étais en contact presque 24 sur 24 avec, avec ce sport-là. Donc, après, sûrement, j'adore jouer les tournois nationaux et tout. J'aimais bien la compétition quoi, en général. Ouais.
Donc, très vite, tu as progressé et tu as eu des objectifs finalement assez rapidement quoi.
J'ai dit, j'avais gagné le tournoi de Dijon quand j'étais petite. En plus, j'ai fait une demi-finale dans le tournoi de TCVB, qui c'est un des tournois les plus forts pour les moins de 12 ans, je pense. Et ouais. Après, tout dans ma catégorie en Afrique, en arabe, je gagnais les titres quoi. J'étais championne d'Afrique moins 14, moins 16, moins 18, même deux fois moins 18, je pense, ou même moins 16 aussi. Et voilà, donc. Et puis après le tournoi de Roland-Garros en 2011, j'ai commencé à prouver que je pourrais être parmi les meilleurs. Voilà, ouais. Donc l'aventure a commencé petit à petit. Moi, je suis de Sousse, donc j'étais à l'âge de 13 ans, j'ai changé, je suis allée à Tunis pour pouvoir s'entraîner et étudier en même temps parce qu'il y avait un lycée sportif à Tunis. Et, ouais. Donc, ouais, je faisais. C'était dur de se réveiller tous les jours tôt et tout, de s'entraîner deux fois par jour. En plus, on avait les devoirs et tout. En plus, on voyageait tout le temps, donc on était obligé de faire les rattrapages. Et je pense que c'était une très très belle combinaison de faire ça, tu vois. Parce que pour moi, les études c'était très important, le sport aussi. Donc, être capable de faire les deux. Je pense que j'avais de la chance aussi de trouver ce genre de lycée en Tunisie.
J'ai lu dans l'équipe que tu avais une bonne relation avec Selim Asfar, qui est tunisienne également, et qui, ouais. Lorsqu'elle faisait des tournois en étant jeune, il y avait peu de tournois uniquement pour les filles, donc elle avait participé à pas mal de championnats avec les hommes, et c'est ce qui lui avait permis ouais. de développer un jeu en toucher, et toi aussi, tu as un jeu en toucher. Est-ce que du coup, ouais. T'as fait aussi des tournois avec les hommes en Tunisie ou comment t'as développé ce jeu en toucher ?
Quand j'étais petite, il y avait les tournois lutins, c'était les deux filles et garçons, mais généralement après j'ai joué avec les filles. Mais je pense quand j'ai demandé à mon coach avant comment j'ai pu vraiment prendre ce toucher là, pourquoi j'aime bien faire les amortis, monter au volet et tout, il m'a dit t'as commencé toute seule à faire ce genre de mouvement, tu vois, et nous on t'a rien dit, on t'a laissé faire. Si t'as bien fait de me laisser faire. Mais je m'entraînais, à un certain moment, je m'entraînais beaucoup avec les hommes, tu vois. Pourquoi ouais. C'est moi qui les a appris à faire se toucher, pourquoi
T'as voilà. commencé avec le mini-tennis, du coup
Ouais, en fait, non, et on n'avait pas trop le mini-tennis comme maintenant. Avec, on jouait avec n'importe quelle balle, n'importe quelle raquette, il fallait juste jouer, en fait. Mais je pense que j'ai joué tout le terrain depuis que j'étais petite. Parce qu'avant, il n'y avait pas en fait, le terrain intermédiaire, les balles molles et tout. C'était ouais. tout le monde en même temps. Quoi.
J'ai lu aussi dans l'équipe que tu disais que tu n'étais pas très regardante, tu ne faisais pas très attention à la qualité des balles, aux raquettes. Est-ce que finalement, tu peux jouer quasiment avec n'importe quel matériel et n'importe quelle balle ?
Ouais, je pense aussi, mais en fait... Le truc, c'est que tu me donnes n'importe quelle raquette, je pourrais m'adapter. Tu vois, à certains moments, tu n'avais pas trop les moyens, donc tu joues avec ce que tu as. Mais je sais que ces détails-là, ils sont importants quand on est en haut niveau. Les balles, raquettes, tension, cordage. Donc, des fois, les petits détails font la différence. J'essaie de m'améliorer dans ce genre de trucs-là, mais je pense que ça ira.
Tu disais que tu aimais beaucoup les amortis. Est-ce que tu te souviens d'une amortie en particulier qui était vraiment incroyable que tu as réussi à faire ?
En fait, le titre de Roland que j'ai gagné, ça a ouais. fini par une amortie. La balle de moi, c'était. J'étais au retour, j'ai fait une amortie. Sinon, il y avait un match que je jouais contre Wozniacki que je faisais que des amorties. Quoi. Pas ouais. le dernier match, celui de Indian Wells.
Il faut que je retrouve les images. À quel moment de ton évolution, tu as vraiment voulu devenir professionnel ?
Je pense que le jour où j'ai décidé de partir à Tunis à l'âge de 13 ans, c'est ouais. vraiment... je commençais à prendre le sérieux. Parce que le fait d'y aller là-bas, c'est que j'étais prête à voyager, à faire beaucoup de tournois, à faire l'équilibre entre les études et le tennis. Donc, c'était vraiment un plan de devenir pro, quoi.
J'ai vu que ton tout premier match sur le circuit WTA, tu l'avais fait contre Virginie Razzano à Doha, ouais, en le 14 février 2012.
On a joué vraiment très tard, quoi. C'était à Doha, jour de Saint-Valentin.
Exact.
Non, c'était un match de 3-7 contre 6-3, 3-6, 6-3.
Ouais. Est-ce que tu étais particulièrement tendu parce que c'était ton premier match?
En fait, pas trop. C'était un match un peu, je voulais vraiment gagner. Ça jouait sur des petits détails. Mais ça se voyait que c'était une fille qui manque beaucoup d'expérience. Voilà, Virginie, c'est pas quelqu'un de facile à jouer. Elle était vraiment une très très bonne joueuse. Donc, c'était un match un peu dur, mais j'étais satisfait de mon rendement ce jour-là.
Et aujourd'hui, quelle est ta meilleure amie sur le circuit?
Je m'entends très bien avec Fanny Stolle de Hongrie. Je sais pas si tu connais.
Comment tu dis? J'ai pas compris.
Fanny Stolle. Hein? Ouais, on s'entend très bien. On essaie de se voir. Son classement là est pas mieux comme avant, mais on essaie de se voir pendant les grands chelems et tout. C'est quelqu'un où je m'entends très bien. Franchement, c'est dur d'avoir des meilleurs amis sur le circuit parce qu'on se voit pas, tu vois. C'est mais j'aime beaucoup de joueuses, je respecte beaucoup de joueuses, ça c'est sûr. Je m'entends bien avec les Françaises.
Ouais, grâce à la langue.
Ouais, ouais aussi, ouais. J'essaie de les apprendre un peu quelques mots en arabe, tu vois. Ils m'appellent tout le temps Habibi, Habibi. C'est à un certain moment, les matchs par équipe, donc ça aide un peu. Franchement, j'essaie d'être sociable avec toutes les joueuses. Si tu demandes à des joueuses, je dis tout le temps bonjour, j'essaie de tout le temps d'être souriante. C'est juste le tennis, tu vois. Après, c'est les relations qui restent. Le tennis va pas durer toute notre carrière. Je pense que dire bonjour ou saluer tout le temps les joueuses, ça a un impact très important. Et pour moi, j'essaie de faire ça tout le temps, quoi.
Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like de suite. Ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barreau. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un court de tennis. Allez, on y retourne.
C'est chouette que tu allais faire aussitôt dans ta carrière parce que j'avais lu une interview de Thomas Verdich par exemple qui avait commencé à le faire très tard, tu vois, à 32, 33 ans, et le vestiaire avait été un peu surpris de se dire, tiens, d'un coup, bonjour à l'arrière, il nous a calculé, et c'est plutôt cool que tu arrives à avoir des relations saines comme ça, quoi.
C'est dans ma personnalité, pour moi, je respecte la joueuse quand je lui dis bonjour, mais après tout, c'est le tennis, c'est le match, même pendant un match, il faut pas vraiment faire la guerre, quoi, toujours dans le fair play, c'est très important pour moi en tout cas.
Tu parlais de match par équipe, tu l'as fait avec quel club?
J'ai fait avec le TCP une année et après j'étais avec le Stade mais jouais quelques matchs par an, c'était pas beaucoup de matchs.
Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier?
Bah, une fois, on était perdu au Japon. C'était un peu ma galère.
Perdu dans la ville ou perdu comment ça?
Non, en fait, on devait prendre le train pour aller dans une ville qui s'appelle Fukuoka. Et en fait, on ne savait pas qu'il y avait deux villes au même nom. En fait, on est complètement allé à l'autre ville. Quoi. Et on s'est retrouvé à passer la nuit dans une station de train avec des prostituées qu'on ne connaît même pas. Quoi. Ouais, après, il y avait le mec, je ne sais pas qui a écrit, on essaie d'expliquer parce que c'était dur. Hein. Certainement, personne ne parlait anglais. Et du coup, ils avaient écrit un truc en japonais. Parce qu'on n'a pas acheté un autre billet, c'était le même billet. Et ils étaient gentils de nous laisser reprendre le train et tout. Et du coup, à chaque fois qu'on allait montrer le ticket, on montre la feuille là. Et à chaque fois, le mec, il commence à rigoler. Tu vois. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient écrit sur le truc.
Et t'as réussi à faire le tournoi du coup?
J'ai gagné les deux tournois juste après.
C'était incroyable.
Ouais.
C'était en quelle année?
C'était 2000... 13 ou 12, je sais pas, dans ces zones-là, ouais.
Quelle est la blague la plus folle que t'aies vécue dans un vestiaire ?
Blague, en fait, c'était, je sais pas si on peut appeler ça une blague ou pas, mais c'est plutôt une rencontre, tu vois. C'était l'année où j'ai fait troisième tour à Roland-Garros.
Ouais.
En fait, je viens de, je pense, de perdre mon match ou gagner mon match, je sais pas exactement, mais. J'étais dans les vestiaires sous Philippe Châtrier et je voyais Serena. Et à l'époque, elle était enceinte. Donc, je lui dis « Hey, congratulations for the baby » et tout. Elle a dit « Thanks ». Et après, c'était la première fois que je lui parle, tu vois. C'est juste par politesse, je voulais dire « Tu vois, félicitations
ouais. ».
Et elle m'a dit « Thanks, Holmes ». Je lui dis « Putain, tu connais mon nom et tout ». C'était genre, j'étais « Ouf, ok ». Et franchement, ouais. J'étais choquée à un certain moment, quoi. C'est Serena qui elle te connaît sur le circuit et tout. Et bon, après, elle parlait avec les filles et tout. Et après, elle s'est retournée et dit « Bye, Holmes ». Je dis « Waouh !» J'avais perdu ce jour-là, je me rappelle. J'avais même oublié que j'avais perdu, en fait.
Incroyable. Cool.
Mais là, de temps en temps, quand je la vois avec sa petite, je dis bonjour à la petite et c'est super gentil, quoi.
Quel est le joueur ou la joueuse le plus drôle sur le circuit ?
Moi, j'aime bien être, tu vois, la comédienne partout. Tu
donc
vois.
C'est toi, c'est toi.
Donc, c'est de faire des blagues tout le temps. Peut-être, c'est moi. Mais il y en a des filles qui sont vraiment marrantes, quoi. C'est. Il y a Brady qui est très marrant.
T'as dit qui après Brady ? J'ai pas compris.
Swishé de Taipei. T'as joué bien, très bien l'année dernière aussi, en simple.
Quelle est la chose la plus crazy, la plus folle ?
La plus folle. Bah, tout dépend, hein, folle. Dans quel sens déjà ?
Folle à ton sens à toi, quoi. Que tu trouves incroyable. J'aurais jamais fait ça ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois.
Moi, je suis folle aussi. Mais...
Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un court ?
En fait, avant, j'étais vraiment folle sur le terrain. Je cassais beaucoup de raquettes et tout. Mais là, je dis plutôt des gros mots, mais j'essaie d'éviter ça.
Et tu te souviens d'un match en particulier où tu as vraiment pété les plombs ?
Ça fait vraiment longtemps quoi, que je frappe pas beaucoup les raquettes. Quoi.
Tant mieux.
Aussi une galère sur un terrain, une fois l'année dernière à Majorque, j'ai passé tout le match à vomir, j'étais pas bien, je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Donc en fait, je vais au bord du cours, je vomis, je fais le jeu, en changement, et la meuf elle a rien compris parce qu'après je joue bien, donc elle pense que j'étais en train de faire semblant, j'ai gagné à la fin quand je lui ai serré la main, je dis désolé, je vais aller vomir quoi. Et elle n'a rien compris, elle me faisait comme ça.
T'étais malade, il y avait un truc en particulier ?
Ouais, j'étais pas en train de digérer tout ce que je buvais.
Est-ce que tu parlais de. Tu disais que mentalement, tu avais arrêté un petit peu les pétages de plomb. Tu fais de la préparation mentale ou ?
La préparation mentale, déjà, je faisais depuis longtemps. Mais je suis plus consciente. Je sais que mon énergie est très importante, donc j'essaie de ne pas gaspiller mon énergie sur des trucs qui ça vaut pas vraiment la peine. Et aussi de prendre des warnings ça, pour rien, quoi. Et donc voilà, franchement, je pense que c'est une question de maturité, une question que j'ai gagné beaucoup d'expérience au fur et à mesure de ces dernières années. Je suis contente que j'ai pu vraiment m'améliorer sur ce plan-là, mais j'ai encore le temps je pourrais vraiment m'améliorer encore plus sur ce plan-là.
Tu as un préparateur mental ?
Oui, une préparatrice, ouais.
D'accord.
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est incroyable parce qu'en France, c'est une question un petit peu tabou. On n'est pas trop Tu vois, on n'est pas trop axé encore là-dessus. Et j'ai l'impression que dans les pays étrangers, beaucoup de joueurs étrangers se tournent vers des préparateurs mentaux. Et c'est clairement, je pense que c'est l'avenir, quoi.
Ouais, toujours dans la vérité ou le fait de s'améliorer mentalement. Seul exemple pour moi, c'était en 2011, avant de jouer Roland-Garros, j'avais fait une opération. Donc Roland, c'était en juin, en mai. Et moi, j'avais fait l'opération en 2000. Donc c'était chaud. J'ai commencé petit à petit juste avec le coup droit. Avant Roland, j'avais joué 2 tournois. Je pourrais te dire que mentalement, je voulais vraiment gagner Roland parce que en 10 quand j'avais perdu en finale, c'est resté dans ma tête, c'est resté là. Et du coup, je disais que je revenais en 2011 pour gagner, quoi. Et j'avais dit ça quand j'étais opérée du poignet. Donc, je disais ça devant tout le monde a commencé à rigoler. J'étais même pas prête, physiquement, tennistiquement, j'étais même pas prête. Je peux tout le dire, là. Mais je demande à mon préparateur qu'il me remonte un peu le moral, tu vois.
Ouais.
Je suis prête. Il m'a dit non, je pense que t'es pas prête du tout, quoi. Ah. Et moi, tu vois, juste de me dire que j'étais prête pour m'encourager et tout. Non, t'es pas prête. Je dis ok. Alors, je suis allée. Je savais que je pouvais gagner. Du coup, je savais que mentalement, c'était très important parce que même si physiquement ou tennistiquement, t'es pas prête, certainement, le mental peut tout contrôler.
Ouais, incroyable. Je vais essayer de bouger parce que ça saute un petit peu la connexion. Pourtant, je suis chez moi, il n'y a pas de raison. On va voir. Ok. Comment est-ce que tu gères le fait d'être un vrai symbole de réussite dans ton pays et même sur tout le continent africain grâce à ton explosion, j'ai lu par exemple dans Le Monde qu'il y avait eu que le nombre de clubs de tennis avait doublé en Tunisie. Comment est-ce que tu gères tout ça?
Ouais, en fait, déjà, je suis honorée que tout le monde essaie de me suivre. Pour essayer de prendre ma carrière, mon expérience comme un exemple pour réussir. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent tout faire pour y arriver. Et je suis honorée de donner l'exemple. C'est vrai que il faut vraiment donner un bon exemple parce que pour moi, là maintenant, aller faire un tournoi, c'est pas juste pour moi, c'est pour tout un peuple, inspirer ce genre de jeunes et donner de l'espoir parce que, ok, je viens de la Tunisie, on n'a pas beaucoup de moyens là-bas, mais j'ai prouvé qu'on pouvait le faire, j'ai prouvé qu'avec même ces moyens-là, on peut y arriver. Après, mon objectif, un autre jour, c'est de partager mon expérience pour faire gagner plus de temps à ces jeunes-là, d'y arriver plus vite peut-être et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Je sens que la Tunisie, on a beaucoup de talent là-bas. En Afrique aussi, dans le monde arabe, vraiment, on peut y arriver. Toujours d'y croire et de travailler, parce que le fait d'y croire, ça commence par ça, tu vois. D'y croire à notre rêve. Et après, si on travaille dur et tout, ça va le faire.
Yes, incroyable. Tu as une fondation déjà ou pas encore, ou tu veux en créer une?
Pas encore. Peut-être dans l'avenir. Là, j'essaie... De t'écrire un peu l'histoire, de faire connaître plus mon nom. Après, un autre jour, ouais, pourquoi pas ma propre académie. Franchement, c'est un rêve et j'espère le réaliser un jour.
Génial. Ton mari, c'est ton préparateur physique. Quelle est la fois, la période où il t'en a fait le plus baver?
Me torturer.
C'est un peu ça, ouais.
On travaille tout le temps. C'était un peu dur au début de commencer parce que c'est mon mari. Donc, faire séparer un peu le professionnel et personnel. Mais il est moitié russe. Mon mari, il est tunisien, moitié russe. Donc, il a un peu ce côté russe de la discipline de me faire travailler dur. Mais il me pousse à faire des choses. Il me pousse à mes limites. Mais en même temps, il sait que c'est le moment de se reposer où la récupération est très importante. Mais on travaille tout le temps bien. Cette année-là, on a fait une très belle préparation. Même l'année d'avant, c'est vraiment... Il y a les moments où vraiment on fait des blocs de ouf et ça bosse dur. Donc, tant qu'on s'entend bien, on bosse bien, donc c'est bien.
Trop bien. Et j'ai lu dans l'article de l'équipe que tu apprenais le russe. Est-ce que tu y arrives et comment tu fais?
Un peu. J'apprends... nom de la bouffe qui est important pour moi.
C'est le plus important. D'ailleurs, tu as fait ta première finale à Moscou. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as une partie de ton cœur qui est attachée à la Russie ou comment tu vois la chose?
Peut-être. Moi, je me sentais bien là-bas. Il y avait sa famille aussi là-bas. Donc, c'était vraiment très important. Enfin, en plus, les Russes parlent aussi de moi. Maintenant, à chaque fois que je fais de bons résultats. C'est un pays que j'adore beaucoup et je suis contente de découvrir un autre pays, une autre culture. C'est vraiment des gens que j'adore, quoi.
Tu dis également dans l'équipe que t'es pas la joueuse forcément la plus fit et que tu essayes mentalement de laisser passer le négatif et te concentrer sur le positif. Ça veut dire quoi exactement?
Bah, ça veut dire que chaque joueur, chaque joueuse, il a ses forces. Pour moi, je pense que mon coup droit, mes changements de rythme, ce genre de jeu est ma force. Je suis pas physiquement, mais je peux l'être parce que je sais que j'ai des capacités physiques qui peut vraiment pousser à faire des choses. Je sais que j'ai beaucoup de force et je pourrais exploiter ça. J'essaie de dire que on n'est pas tous complets, quoi. C'est, on a toujours des trucs pour des angles pour travailler. Et là, je trouve que c'est une bonne chose, chose très positive d'avoir plus de, par exemple, je peux travailler sur le physique plus, je peux travailler sur ça plus, donc il y a toujours des trucs à s'améliorer, pour mon jeu. Et voilà, ouais. Donc c'est comme Nadal, on voit que c'est un taureau sur le terrain, il est très fort physiquement, quoi. Ouais, je pense que c'est pas le mec le plus souple sur le circuit non plus, quoi. Voilà.
Ouais. J'ai vu que ça n'avait pas été toujours pareil dans l'équipe, que financièrement ça n'avait pas toujours été très facile, que ta mère t'avait soutenu, que tes frères avaient pu t'aider en te faisant des virements sur les tournois. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné ton premier gros chèque?
Bah déjà, tu as beaucoup de dépenses, mais après, c'est franchement, je sens qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, que j'ai galéré avant et que je savais que j'ai galéré avant pour une raison, que ma famille était pour là et que c'était un rêve de famille, c'était un rêve de tout un peuple. Et pour moi, ça commence là. L'argent, c'est vraiment pas très important pour moi. Je joue parce que j'adore le tennis. Ok, je gagne ma vie, c'est mon boulot en même temps et tout. Mais j'ai besoin de donner encore plus. C'est ça, en fait.
Ça veut dire quoi pour toi être riche?
C'est fantastique, quoi. Je dirais pas que je suis très, enfin, oui, j'ai commencé, je peux dire que j'ai commencé à zéro, et là je commence à vraiment former une belle équipe. Maintenant, je pourrais peut-être me permettre d'avoir un physio de temps en temps avec moi. C'est ça, en fait, l'objectif, d'arriver à avoir une très bonne équipe derrière pour y arriver au niveau que je veux, à mon rêve.
Yes. Tu dis que tu es fan de Andy Roddick. Pourquoi exactement?
Bah, déjà, je pense que le caractère sur le court, on est un peu similaire. C'est quelqu'un qui est, c'est un petit comédien. Son service, il est ouf. Donc, j'espère un jour avoir son service. Et en plus, il est mignon. Donc, voilà.
Excellent. Et ta joueuse retraitée préférée, c'est laquelle?
Je sais pas, tout le monde fait leur comeback en ce moment, donc c'est dur de dire. Ouais, j'aime bien Kim Clijsters, mais là, elle revient, donc je l'aime bien. Ouais, j'aime bien son style. Ouais, je respecte toutes les joueuses. Enfin, ils ont tous une histoire incroyable derrière et je respecte toutes les joueuses.
Et les joueurs et joueuses actuels que tu admires particulièrement?
Bah, comme tout le monde, j'adore Federer et Nadal, les deux. J'adore les deux. Joueuse, j'aime bien Serena, j'aime bien Ash Barty, parce qu'on a joué aussi ensemble en junior.
Ouais.
Donc, j'aime bien ce qu'elle fait. Vitova, je l'adore aussi, c'est une joueuse que je respecte beaucoup. Elle donne beaucoup d'exemples sur un terrain, de ne pas lâcher. Elle est toujours là, donc c'est quelqu'un de sympa en dehors du court.
Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'es donné dans ta carrière?
C'était en fait, c'est tout ce qui est speech de comme dans le film de Karate Kid et tout, j'adore moi. Donc, sur moi, il y avait mon coach là, il m'a donné un conseil genre vas-y, lâche rien, c'est le moment ou jamais. C'est en fait, ça parle même pas technique, quoi. C'est pour moi, ça parle du mental dans un match. C'est ça mon meilleur speech.
Et c'est généralement, c'est quoi? C'est en préparation du match, c'est dans le vestiaire, c'est pour les entraînements?
En fait, soit avant de partir pour jouer un match ou en cold coaching, c'est quand il vient sur le terrain.
D'accord.
Et commence à. C'est parce qu'en fait, tu as une minute et demie pour changer un truc.
Ouais. Ça a beaucoup changé à ta carrière, le coaching sur le court ?
Pas beaucoup, mais ça aide des fois. Mais aussi, des fois, je suis le genre de joueuse que j'aime pas quand on me parle, quand je suis un peu énervée, je vais pas écouter. Mais y a des coachs que certainement, parce que en fait, il suffit de me dire un truc qui est faux, ça m'énerve encore plus. Donc, vaut mieux rien écouter.
Je comprends. J'ai 5 petites questions pour terminer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne ?
En fait, je travaille beaucoup sur moi. Surtout, en général, j'essaie de plus me juger moi-même ou juger d'autres personnes. Et voilà, faire ce que je veux et ce que j'aime. Parce que là, ça me donne du plaisir à faire à jouer au tennis, à jouer de la compétition et à trouver de la motivation.
Tu fais de la méditation ?
Oui, j'essaie. Je dirais pas beaucoup, mais je devrais faire plus. J'adore la méditation. Dans l'Australie Open, tous les jours, je faisais de la méditation et ça m'a beaucoup aidé.
Avec une application ou avec ton coach ou comment tu pratiques ?
Avec ma préparatrice mentale, elle m'envoie des vidéos, on se parle. Donc, tout dépend ce que j'avais besoin ce soir-là, je le fais. À mes besoins, bien sûr.
C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude d'offrir à des personnes que tu aimes vraiment ?
Il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho et L'Étranger de Albert Camus.
Et s'il y avait une chose dans chaque livre qui t'a vraiment marqué, c'est quoi ?
C'est surtout L'Alchimiste, quoi. C'est le fait d'apprendre à vivre. C'est pas science-fiction, mais ça sort de l'ordinaire, tu vois. Et plus qu'un truc un peu qui sort de l'ordinaire, je dois relire le livre pour se rappeler un peu de quoi ça parle encore. Mais je me rappelle que généralement, je lis pas beaucoup de livres, mais celui-là, je l'ai lu en une semaine, quoi. Que c'est vraiment très, très rare, quoi.
Est-ce qu'il y a une citation que tu connais, que tu aimes bien ?
Là, en ce moment, enfin, je t'enverrai après.
Avec plaisir.
Mais j'aime tout ce qui est, en fait, il y a des trucs qui me parlent, tu vois, mais tout ce qui est, ça change de l'énergie négative à l'énergie positive, j'adore beaucoup. J'adore tout ce qui est spirituel.
Ok. Qu'est-ce que tu dirais à Ons Jabeur, qui était un peu au fond du trou, un peu perdu, un peu qui avait peur quand tu étais peut-être adolescente, qui avait besoin de confiance ? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer sur la suite de sa carrière ?
Bon, en fait, là, je dis que je suis très fière d'elle, je suis très fière du boulot qu'elle a fait pour y arriver là, et que chaque moment difficile, chaque moment de bonheur, fallait vraiment... It was worth it, tu vois. Ça valait la peine de passer par là, et je suis très fière d'arriver jusque là, et je dirais que j'ai trop hâte de faire ce boulot là.
C'est bon ça. Ouais, quel est ton tournoi préféré ?
Il y en a plein. Le tournoi de Doha, c'est un tournoi très très spécial pour moi parce que je me sens vraiment chez moi et j'adore là-bas comment ils me traitent et tout, l'organisation, en fait tout est incroyable là-bas. Mais sinon, j'adore aussi sur Roland Garros, c'est un truc spécial là-bas, c'est très proche de la Tunisie, donc c'est un peu aussi comme chez moi.
C'est quoi ton rêve aujourd'hui dans le tennis ?
De gagner en grand chelem et d'être numéro 1 mondial.
Allez là. Comment est-ce que tu connais Tennis Légende ?
En fait, beaucoup de Tunisiens, ils sont sur la page, et donc ils partagent souvent les vidéos, les articles... Et donc voilà, je vois de temps en temps. Franchement, je connais de Facebook.
Où est-ce qu'on peut te suivre, Ons ? Comment est-ce qu'on peut suivre ta carrière et ton actualité ?
Instagram, Facebook, Twitter aussi. Je suis pas hyper active, mais j'essaie de vraiment de partager des trucs. Voilà.
Très bien. Pour conclure, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui t'aiment vraiment beaucoup, qui te suivent toute l'année, qui ont envie de devenir championne de tennis comme toi ?
Déjà, je remercie tout le monde qui est en train de suivre ou de m'envoyer des fois des messages. Malheureusement, je ne peux pas tout lire, mais je suis vraiment reconnaissante. C'est juste le début de plein de beaux performances, j'espère. Juste un petit conseil à tous les joueurs de tennis dans le monde entier, Si vous avez un rêve, tenez bon et travaillez dur, vous pouvez y arriver. Rien n'est impossible dans cette vie-là.
Superbe. Sinon, la vie est belle à Miami Beach.
Elle est très, très belle. Je partage avec les gens.
Génial. Bien. C'est chez toi, là ? T'es dans ta maison à toi ?
Non. Chez mon coach.
Les gens te reconnaissent un peu à Miami Beach ou t'es tranquille ?
Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Ouais. Il y en a un qui m'a vu parce que j'étais dans un terrain de tennis. Il m'a dit félicitations pour la saison et tout. Mais franchement, non, pas encore.
Ça te fait quoi quand on te reconnaît dans la rue, quand on sait que t'es quelqu'un de connu ?
En fait, ça me fait trop plaisir, quoi. C'est vraiment très chou. Sauf si je veux faire des bêtises, c'est pas bien de me reconnaître.
Alors, fais pas de bêtises.
Sinon, je fais pas de bêtises. Moi.
Merci beaucoup. C'est un grand, grand honneur.
Merci.
Très belle carrière, très belle saison.
Merci.
Et puis peut-être
merci
à bientôt.
Ouais.
Salut, à bientôt.
Merci Max. Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Once. N'hésitez surtout pas à lui envoyer un message d'encouragement sur Insta. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Si vous voulez nous aider à faire grandir le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa, peu importe où vous l'écoutez. Mais quand même, principalement sur Apple Podcast, c'est la plateforme où tout se passe en matière de référencement et en plus, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Faites le temps que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, bref, c'est tout bénef. Un grand merci pour vos derniers commentaires, Dim, Lacan et Paf qui nous écrit « Excellent podcast pour les vrais fans de tennis, des invités passionnants, un intervieweur au top, merci. Ça donne forcément des épisodes super intéressants pour les vrais suiveurs de tennis, bravo à l'équipe. » Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes. Abonnez-les directement sur le téléphone, comme ça on est peinard pour la suite. Enfin, pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le court. Grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barrault. Premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant. Est passé au micro, Jean-Phi a coaché 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents et à David qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur parce que ce podcast est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur vous en dit. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.